Salut à tous, on va continuer à suivre la mèche pour reprendre le titre du nouvel album de Titeuf. C'est un événement mine de rien, tant ce personnage a marqué les générations depuis les années 90. Mais il n'y a pas que Titeuf dans la vie de son auteur, il y a aussi les romans graphiques, les albums qui parlent de musique ou même de sexe, et puis il y a Tcho, le magazine, bref, ça valait bien que je prolonge un peu le séjour ici à Genève, dans l'atelier de Zep.
Dans l'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis.
Zep, on a parlé dans le premier épisode du podcast de comment tu as créé ce personnage de Titeuf. Explique-nous maintenant comment tu conçois un gag, plus généralement un album. La question est évidemment un peu bateau, mais où est-ce que tu vas chercher tes idées? Comment tu procèdes pour écrire?
Tu vois, là, dans les étagères, j'ai des carnets, plein de carnets. Et ça c'est la vie de Titeuf. Enfin, c'est au-delà de Titeuf, c'est la vie de mes bandes dessinées. C'est-à-dire que je note tout ça et c'est comme une espèce de mémoire de tout ce qui sort. Je note tout, je fais des petits bouts de dialogue. Souvent, c'est des fragments de choses. Et quand je me remets un album de Titeuf, j'en prends deux ou trois et je commence à les relire. Et ça, c'est comme si ça réactive la pompe, quoi. Et ça redémarre. Et là, après, je prends un carnet. Dans mon carnet, je note. Sous forme de dessin très simple, des histoires, des fragments d'histoire. Parfois, c'est un bout de dialogue. Souvent, l'amorce, elle se fait par le dialogue en Titeuf et Manu. Mais il y a des périodes, c'était vraiment Titeuf et l'observation. C'était plus des choses visuelles. Parfois, c'est des choses plus verbeuses. C'est des discussions avec les néologismes de Titeuf, son incompréhension par rapport à des mots. Et puis, je note tout ça de forme très brute, sans du tout me discipliner, je fais ça une partie de la journée, donc je remplis des pages, puis après je relis. C'est un état presque, je vais pas dire second, mais c'est un état, je suis dans un état enfantin, je suis Titeuf, je m'amuse, je suis triste, j'ai peur, je suis tout
ça. Tu es un peu tout le temps Titeuf, ou il y a un moment où tu dis, bon, là je me mets à Titeuf, donc hop, je suis dans la peau du personnage, et voilà,
j'essaie de... Il me faut ça, il me faut se repartir dans mes bouquins, et puis là, je peux pas claquer les doigts et je suis Titeuf. Mais, et là, d'écriture, je me mets dans mon truc de Titeuf, même ma posture change, je suis un peu, je peux faire ça sur une chaise ou sur plié, je mets ma main devant comme pour pas qu'on me copie. C'est des réflexe, mais je dessine un peu comme quand j'étais enfant. Et puis après, je relis ça, et là-dedans, je prends des choses qui m'intéressent, puis là, je fais un truc plus professionnel, c'est-à-dire que je construis mes histoires, donc je vais prendre une thématique, puis je vais faire une, deux, dix versions de mon histoire, jusqu'à ce que j'aie la bonne, je la dessine après sous forme de storyboard, et là, je la fais lire à mon éditeur ou à mon éditrice. Et puis, je sais que je vais faire pour un album toujours une centaine de pages de storyboard pour en garder une petite moitié. Donc, on avance comme ça et puis...
C'est-à-dire, il y a une cinquantaine sur un album de 50 pages, il y a 50 gags qui sont jetés, c'est
ouais,
ça
ouais, ouais.
Ah ouais, quand même.
On a la visite de mon chien qui débarque.
Un gros chien blanc.
Alors, Wilson, est-ce que tu peux rester tranquille? Ah si.
Donc Wilson va écouter.
J'ai une autorité naturelle sur les chiens.
Effectivement, Wilson ne s'assoit absolument pas.
Non. Donc ouais, qu'est-ce qu'on dit? Ouais,
on disait qu'il y a beaucoup de déchets finalement dans Titeuf.
Il y a beaucoup de déchets, mais c'est toujours utile en fait de les sortir. Parce que des fois c'est d'autres versions de l'histoire, donc il faut faire plusieurs versions pour trouver la bonne. Parfois il faut faire plusieurs versions pour se conforter que c'était bien la première qui est la bonne. Puis il y a des thématiques des fois sur lesquelles je vais travailler et... Des fois, l'histoire, elle vient toute seule. Des fois, c'est poussif. Je vais faire plein de versions. Pour finir, je vais laisser tomber parce que je ne trouve pas de trucs satisfaisants. Puis l'album se compose un petit peu comme ça. Et en même temps que je fais ça, je dessine des pages. Dès qu'il y en a une où je sens que vraiment, elle est solide et je ne vais pas la regretter, je la fais. Et généralement, une fois que c'est dessiné, elle est dans l'album. C'est rare qu'une page dessinée soit retirée.
Il y a un fil rouge sur un album de Titeuf. Alors, il y a quelques histoires de Titeuf qui sont des grandes histoires. Mm-hmm. Mais sinon, il y a un fil rouge ou pas spécialement? C'est
pas
gag après gag.
Non. Il se dessine au fil de l'album. Mais il n'est pas prémédité. Je vais me rendre compte qu'il y a plus d'histoires avec tel personnage ou plus d'histoires autour de telle thématique. Mais c'est arrivé, par exemple, dans l'album À la folie, il y a l'arrivée de ce personnage qui s'appelle Ramatou, qui est une fille qui arrive d'un camp de réfugiés. Et puis là, il y a beaucoup de pages autour de cette fille. Et je savais que je voulais parler de cette histoire. C'était aussi une nouvelle fille dans la classe dont Titeuf tombe amoureux, qui est sympa avec lui. J'avais envie de sortir de cette histoire de Titeuf et Nadia, ou Titeuf est amoureux de Nadia, mais Nadia se fout complètement de Titeuf.
Alors que là, Nadia, ça la fait réagir.
Voilà, ça la fait réagir, une sorte de jalousie entre les filles. Et puis, il y a aussi Titeuf qui tout à coup vit un peu une relation, une petite complicité avec une fille, donc ça permettait de raconter d'autres histoires. Mais c'est assez rare, généralement c'est plus les histoires arrivent, puis je me rends compte après peut-être 20 ou 30 pages qu'il y a un peu cette ligne.
Ramatou permet de parler des personnages secondaires, il y en a un que tu aimes plus que les autres?
Je crois que mon préféré, bon, à part Manu, qui est l'alter ego de Titeuf, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de... ouais, j'ai beaucoup de tendresse pour lui, parce que je trouve qu'il est, il est comme Titeuf, très curieux, un peu naïf.
Un copain binoclard.
Voilà. Mais il est plus sympa que Titeuf. Il est moins égoïste, il est plus touchant. Voilà. Mais il est moins fou que Titeuf. Et j'adore Thérèse, en fait. Dans les nouveaux personnages, Thérèse est un personnage que j'aime beaucoup. Donc Thérèse, c'est une fille un peu, qui est un peu perchée, qui est toujours complètement à côté de la plaque, des discussions. Elle n'est pas sur le réseau, elle s'en fout d'être populaire. Elle fait des remarques complètement débiles à côté de la plaque. Tout est faux. Et elle rend Titeuf complètement fou. Et au fond, il développe une relation avec elle, parce que le fait qu'il ait envie de l'étrangler tout le temps, ça développe une espèce de relation de couple entre eux, qui est peut-être un peu pour les auditeurs les plus vieux, et qui se rappellent de Corinne et Jeannot. Voilà, moi j'ai grandi avec cette série
de Tabari,
qui était un truc très étrange, quoi, qui était à la fois une histoire d'amour, mais une histoire atroce, parce que
Corinne martyrisait Jeannot,
c'était un truc vraiment sadomaso, quoi. Et alors, on n'en est pas là, mais il y a quelque chose qui m'intéresse, puis dans ce personnage, qui, en étant complètement à côté de la plaque, a aujourd'hui une certaine sagesse, parce qu'elle s'en fout d'être populaire, elle n'est pas terrorisée à l'idée de savoir tout ce qui se passe, d'être sur les réseaux tout le temps. Elle fait des répliques complètement à côté, mais qui parfois sont pleines de bon sens.
Il y en a un que j'aime beaucoup, je ne sais pas si tu as une affection particulière pour lui, c'est Ramon. Ce garçon, d'ailleurs dans les bulles quand il parle, il y a toujours des tâches, des fautes, est toujours un peu largué, il a toujours un accent à couper au couteau, il est toujours un peu à côté de la plaque.
Ouais, Ramon, c'est un vrai souvenir, parce que c'était un camarade de classe qui s'appelait Ramon, moi j'ai grandi dans une cité à Genève où la moitié de la population était suisse et l'autre moitié c'était des immigrés espagnols et italiens. Et donc il y avait beaucoup de garçons espagnols et italiens qui parlaient pas très très bien français. Il y avait Ramon qui était hyper attachant, qui était le pote que tout le monde aimait, mais qui nous faisait rire parce qu'il disait n'importe quoi, donc on riait aussi à ses dépens, et Titeuf est assez cruel avec Ramon parce que il se moque de lui tout le temps, mais en même temps Ramon est assez craquant et les filles l'aiment bien, donc ça rend Titeuf assez fou.
Jean-Claude, Vomito, ça aussi c'est des copains d'enfance.
Ouais, Vomito, il a existé, ouais. Je ne peux pas dire que c'était un copain, mais en tout cas,
il vomissait vraiment.
Il a laissé quelques traces.
Et Nadia, il y en a eu une dans son enfance.
Nadia, bien sûr, il y avait Nadia, qui était la fille dont tous les garçons étaient amoureux. Et j'aimais bien cette idée que Titeuf, il est amoureux, mais il ne sait pas pourquoi il est amoureux. Il est amoureux de Nadia parce que c'est la fille dont il faut être amoureux, un petit peu comme il faut avoir le dernier iPhone. Donc le jeu, c'est de savoir si elle va aussi être amoureuse. Mais même si à un moment, on est amoureux et elle est amoureuse, il ne va pas se passer grand-chose parce que ce n'est pas un âge où les garçons ont envie de passer leur temps avec des filles et les filles leur temps avec des garçons. Donc ça reste deux camps un peu retranchés.
Est-ce que ce personnage de Nadia, tu l'as fait évoluer parce que l'époque, elle a évolué aussi sur la représentation des personnages féminins ?
Elle n'a pas beaucoup changé, Nadia, en fait. Elle est assez... elle a une bonne conscience de sa popularité. Elle sait qu'elle est la fille qui a tous les garçons à ses pieds. Elle ne s'intéresse pas à Titeuf, elle le trouve débile. Elle s'intéresse à des garçons plus matures que lui. Elle trouve que les garçons sont des bébés. Et voilà, pour elle, Titeuf, c'est pas... Voilà, c'est un garçon de la classe, mais elle ne lui accorde pas plus d'importance que ça. Mais lui, l'importance qu'il lui accorde, c'est qu'il aimerait. Pour lui, être amoureux, c'est une ascension sociale. S'il pouvait dire à ses copains que Nadia est amoureuse de lui, ça lui irait amplement. Il n'a pas besoin de plus. Il n'a pas envie de... Même l'idée d'embrasser sur la bouche Nadia, il trouve ça plus dégoûtant qu'autre chose.
Dans l'atelier BD de Zep.
Tu disais tout à l'heure que Titeuf n'est pas forcément très sympa, notamment par rapport à Manu. Est-ce que c'est vraiment un personnage qui est conçu comme ça ?
Non, bah il est réaliste, quoi. Il peut être lâche, il peut être un peu manipulateur. Il devient sympathique parce qu'il est en échec presque tout le temps. Donc les tentatives qu'il fait pour manipuler les autres, c'est lui qui s'en prend une. Donc ça le rend sympa. Et par moments, il est sympa. Par moments, il va aider celui que les autres n'aident pas. Il va faire des choses comme ça. Mais donc son inclination naturelle, elle est plus à être centré sur lui, à attirer l'attention sur lui, puis à essayer d'obtenir tout ce qu'il veut obtenir.
Derrière toi, là, il y a ta planche à dessin, avec une planche d'ailleurs du dernier Titeuf que tu dois être en train de finaliser peut-être. Mm-hmm. Est-ce que quand tu les fais, ces planches, tu te marres ?
Alors quand je les écris, je me marre. Après, quand je les dessine, je me marre moins parce que je suis déjà dans un truc très technique, quoi. Mais ça m'arrive de me marrer sur des... au moment où je mets les textes, parce que je... là encore, ça peut bouger un petit peu et il y a certaines... il y a des répliques qui doivent me faire marrer jusqu'à la dernière relecture.
C'est bon signe. Si tu t'es marré toi, il y a des chances que ça fasse rire les autres.
Ouais, bah, au moins il y aura quelqu'un qui aura ri, quoi. Je me suis toujours dit ça, je dis, au moins un qui a rigolé, donc c'est bien.
C'est du travail vraiment à l'ancienne, hein. La planche, le papier, l'encre de Chine, etc. Ouais. Tu tiens ça?
Bah, c'est du feutre, c'est plus de l'encre de Chine, mais ouais, c'est à l'ancienne. C'est-à-dire que je fais un crayonné. Alors je fais un crayonné sur mon ordinateur, je ne fais plus un crayonné papier que j'imprime. Après, je le décalque sur ma table lumineuse derrière toi. Avant, ça s'arrêtait là, si tu veux. Mais après, maintenant, on est tous devenus photolithographes. Donc, je scanne ma page et parfois, je passe plus de temps à retoucher ma page, le trait, les détails, les petites erreurs qu'il y a eu, qu'à la dessiner. Ce qui n'est pas top parce que je pense que très souvent, comme j'imagine un peu tous mes collègues, c'est une partie du travail que personne ne voit à part nous. Parce qu'avant, on le faisait pas et les gens remarquent pas une différence. Mais voilà, c'est un espèce de truc où on se dit, ah, oh, mon Dieu, il y a encore un trait qui déborde ici, ou il y a une petite tache là, ou il y a un croisillon qui n'est pas parfait, ou à un moment, il y a un trait qui s'est un tout petit peu rétréci ou qui s'est un tout petit peu évasé, donc je vais pouvoir retoucher et avoir une courbe parfaite. Et donc, on va passer peut-être 10 minutes à retoucher une courbe. Puis après, quand on dézoome, cette courbe, c'est plus petit que l'œil de Titeuf, tu vois. Donc c'est assez inutile, mais voilà, c'est une espèce de dommage collatéral d'être devenu équipé en informatique.
Ça prend du temps de faire une planche de Titeuf ?
Bah, le tout, avec cette étape-là, c'est une, je dirais, entre 8 et 10 heures.
Alors, on va pas se cacher les choses. On a eu un peu du mal à caler ce rendez-vous tous les deux parce que tu m'as dit, ah non, mais là, je suis en bouclage de Titeuf, c'est impossible, mmh. Je peux vraiment rien faire d'autre. Quand tu fais un Titeuf, mmh. Ça prend vraiment beaucoup de place dans ta vie.
Bah, tu vois, je travaille 10 heures par jour sur Titeuf. À côté de ça, je reçois quand même, je pense, 300 messages par jour, dont il faut que je réponde quand même à une bonne cinquantaine. Donc, c'est des grosses journées quand je suis en bouclage, c'est des journées de, en tout cas, 15 heures.
On pourrait se dire, donc, tu peux te reposer sur le succès de Titeuf, mais non, c'est,
bah, c'est même pas tellement se reposer, c'est que, si tu veux, je suis consentant, hein. Moi, j'aime faire ça, et à partir du moment où c'est lancé, je le fais à fond. Et j'ai pas envie de faire un album pendant 2 ans. Il y a un rythme normal, naturel, qui est de faire une page par jour. C'est rare que j'étire une page sur 2 jours, sauf si tout à coup j'ai un imprévu qui fait que ma journée est coupée. Mais donc il y a une période pendant laquelle, quand j'arrive à la fin en bouclage, je prends plus d'interviews, je prends plus d'émissions, plus de rencontres, plus de parrainages, de trucs, parce que mine de rien, bah, Titeuf a fait de moi une personne publique. Et ça aussi, c'est une partie de ma vie, quoi. C'est une partie de ma vie d'être dans les médias, de préparer des expos, d'aller faire des rencontres, d'aller faire des choses comme ça. J'aime bien, hein, je trouve ça cool. Moi, j'ai du plaisir à te voir, mais j'ai du plaisir parce que je sais qu'on a un moment qu'on est tranquille et que je suis pas en train de me dire merde, il faut qu'il parte parce que dans 10 minutes, il faut que j'envoie tel truc. Tu vois, j'ai besoin de savoir que. Il y a des périodes pour ça, puis des périodes où les portes sont fermées et on est vraiment sur l'album.
On reparle de la fabrication et de la couleur. Alors, c'est pas toi qui fais la couleur. Ce qui est étonnant, c'est que c'est un auteur assez connu, hein, qui fait la couleur. C'est Nob,
ouais.
Qui faisait Mamet dans Tcho et qui fait aussi Dad dans, ouais. dans Spirou chez Dupuis. Mmh. Pourquoi Nob fait ta couleur, en dehors du fait que c'est un excellent coloriste par ailleurs?
En fait, Nob fait les couleurs de Titeuf parce qu'il est trop gentil, en fait. Il n'a pas encore réussi à me dire non, mais je crois que je crains un peu que ce soit le dernier album qu'il mette en couleur parce qu'il n'a plus du tout le temps de faire ça. Parce que
il fait
La Cantoche, il fait Dad, qui est une série qui a un gros succès. Donc, tout ce que ça implique autour, lui, il fait aussi toute une représentation. Il y a des dessins animés, il bosse sur les dessins animés.
Lui aussi, il n'a jamais le temps d'ailleurs.
Lui, il a un rythme de vie de fou. Et donc, évidemment, ça fait longtemps qu'il devrait ne plus faire les couleurs pour personne d'autre que lui. Mais voilà, et c'est devenu une espèce de... J'en demande pas tous les ans non plus. Donc, il me dit, est-ce qu'il va avoir un nouvel album? Quand est-ce que je dois prévoir ça? Et bon, maintenant, il le fait assez... je vais pas dire qu'il le fait en dormant, parce que c'est quand même un boulot assez astreignant pour lui. Et moi, je suis vraiment hyper chanceux de l'avoir, parce que c'est vrai que le jour où il le fera plus, je sais pas trop comment je vais faire.
T'en as fait de la couleur à un moment?
J'ai fait les couleurs de Titeuf pendant les 10 premiers albums. Et après, c'est lui qui a pris le relais. Mais c'était un truc de... J'arrivais plus, quoi, en termes de vue. C'est trop petit, en fait, de faire la mise en couleur. Alors, je le fais encore dans des... Je me garde toujours quelques pages dans les albums en couleur directe, parce que j'aime faire les pages en couleur directe. Mais ça va pour des pages qui sont assez aérées, qui sont souvent sur fond blanc, avec juste des petits décors couleurs, mais des pages avec des cases, avec la ville et tout, à mettre en couleur directe, je trouve que c'est trop...
Et quand on dit couleur directe, c'est sur papier, hein, bien sûr.
C'est sur papier, c'est de la peinture, ouais.
Il y a Titeuf et l'univers à côté, alors notamment la série d'animation. Franchement, à peu près tous les enfants de la génération 2000 à aujourd'hui ont vu Titeuf à un moment ou un autre à la télé. C'est une série d'animation, le dessin animé, dans lequel tu t'es beaucoup impliqué ?
Pas beaucoup au début, parce que on m'a pas vraiment laissé la place d'y être, en fait. C'était, je crois pas qu'on avait forcément envie d'avoir l'auteur sur le dos. C'est toujours à double tranchant.
Et toi, tu as laissé ton univers en confiance ?
Moi, j'étais, à ce moment-là, j'étais vraiment la tête sous l'eau avec mes albums et tout ce qui se passait autour de Titeuf. C'était 2000, je crois que la première saison, elle est sortie en 2000 ou en 2001, non, en 2000, je crois. Donc, on a bossé entre 99 et 2000 et pour moi, c'était le plein boom de Titeuf entre 98 et 2005. Donc, j'avais pas le temps pour ça. Alors, je relisais les scénarios, je relisais les scripts, mais j'ai très peu participé. Et il y a eu 3 saisons comme ça, et j'ai un peu regretté de pas être plus impliqué. Et sur la 4e saison, on a changé de maison de production, on a travaillé avec la société Goen à Paris. Et là, je me suis plus impliqué, j'ai écrit beaucoup plus d'épisodes. Le réalisateur était, c'est moi qui l'ai proposé, Garc, qui est un réalisateur français que moi j'aime beaucoup. On a travaillé de manière plus proche et j'aime bien ça. Entre temps, j'avais fait le film Titeuf.
Alors que là, tu as réalisé.
Là, j'ai réalisé. Donc, je maîtrisais mieux aussi les process de dessin animé qui sont très compliqués. C'est des chaînes en fait de fabrication où on peut pas être à l'étape 15 et remettre en cause l'étape 2. Donc, alors qu'en bande dessinée, on a cette liberté, c'est-à-dire que moi, je peux avoir terminé une page puis me dire non, en fait, j'ai une meilleure idée, je la jette, je la refais. Ça embête personne d'autre que moi, parce qu'il faut refaire une page, mais c'est un jour de travail, c'est rien. En dessin animé, si vous êtes à l'étape du clean ou de la mise en couleur et qu'on a une meilleure idée de scénario, c'est pas possible. Non, c'est, économiquement, ça coûte une fortune de faire ça. Donc on n'a pas les, on n'a pas la possibilité. Donc tout ce truc, j'avais du mal à être dans ces process un peu qui ressemblent plus à une industrie qu'à de l'artisanat.
C'était pas une très bonne expérience, la réalisation d'un film d'animation ?
C'était une super expérience, mais je suis content de l'avoir faite et je la referai pas, je pense. J'ai trouvé super qu'on me le propose, et quand on me l'a proposé, je me suis dit c'est assez improbable qu'on me le repropose une deuxième fois. Donc vivons l'expérience, au moins j'aurai le film que je veux, ou si c'est pas le film que je veux, je pourrais me le reprocher qu'à moi-même. Je pourrais pas regretter de pas l'avoir fait moi, et j'ai fait le film que j'avais envie d'avoir. Donc je suis hyper content, si tu veux, parce que le film, bah, aujourd'hui, c'est le film que je voulais faire. Mais j'ai passé, sur les 2 ans d'implication, de travail de réalisation, il y a une grande partie du temps qui a été plus discuter avec des équipes, faire des briefings, des débriefings, des choses comme ça. J'ai peu dessiné, j'ai peu fait d'artistique. Parce que pour finir, le scénario, il était écrit la 2e semaine. Et puis après, on était dans le process, dans la fabrication, qui a un côté très, très industriel.
Il faut qu'on dise un mot à ce stade de la voix de Titeuf dans la série animée, qui est peut-être une des parties du succès de Titeuf, non, le personnage lui-même, mais il y a quand même dans le succès de Titeuf, la voix de Titeuf, c'est toi qui l'as casté, c'est Donald Renew donc.
Ouais, c'est Donald Renew qui est devenu une star du doublage maintenant, mais à l'époque il était
une star
jeune,
des réseaux sociaux, une star de YouTube, un YouTuber connu.
Et puis il fait une émission sur les doubleurs, sur les voix, il est super, c'est une chance de l'avoir parce qu'il est... Il est très volontaire aussi, Donald, on lui dit, et on pourrait faire ça avec Titeuf. Ah ouais, génial. Enfin, une heure après, il m'envoie par texto, là, il a été enregistré dans sa salle de bain, le bout de voix qu'il me fallait. Donc c'est hyper agréable d'avoir quelqu'un comme lui. Mais il avait 16 ans à l'époque, donc c'était un de ses premiers.
Il n'a pas du tout l'âge de Titeuf, en fait.
Non, il n'avait pas l'âge de Titeuf. Déjà, il était un peu grand. Mais moi, j'adorais une série animée qui s'appelait Beavis et Butthead, qui racontait, c'était 2 ados sur MTV, qui étaient complètement neuneux et qui passaient leur journée sur MTV à regarder des clips et à commenter les clips. Et c'est devenu une espèce de truc culte sur MTV, c'est-à-dire que MTV passait des clips à longueur de journée, mais leur Beavis et Butthead, c'était leur génial, parce que c'était les mêmes clips, sauf qu'ils faisaient des commentaires par-dessus, salaces, débiles, potaches et tout, avec une animation très rudimentaire, et ils avaient des voix sublimes, des voix vraiment d'ados en train de muer. Et moi, j'avais dit, j'aimerais ça, j'aimerais ce genre de voix. Et la prod, au départ, m'avait proposé des voix qui étaient plus classiques, c'est-à-dire que souvent, c'est des dames qui font des voix d'enfants, et qui en ont déjà fait plein, et qui... c'est des voix qu'on retrouve dans d'autres dessins animés. Et moi, j'avais été hyper ferme sur le fait que je voulais une voix que aucun autre personnage n'avait. Je voulais une voix qui soit que celle de Titeuf. Et il m'a dit, bon, on a un jeune là qui fait sa maman, elle a fait des trucs avec nous, il a fait un peu de chant et on t'envoie. Puis Donald avait fait une ou deux voix comme ça, essaie. Et il y avait déjà cette voix de Titeuf, pratiquement telle qu'elle est aujourd'hui. Et j'ai dit, moi j'adore, je veux cette voix. Il m'a dit, non, mais on comprend pas tout ce qu'il dit, c'est pas bien. Puis il est très jeune, il est pas très expérimenté, blablabla. Et moi j'étais sûr de mon truc. Mais je me rappelle, j'étais le seul à être sûr. Tout le monde, même Kamano, était là. Pff, je suis pas sûr, ça va être compliqué. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment c'est la voix de Titeuf. Alors, si ça avait été une autre, ça aurait peut-être été une autre. Mais moi, je suis hyper content que ce soit celle-là. Et cette voix, c'est vrai que si on l'entend, on sait tout de suite que c'est Titeuf.
Dans l'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis.
Alors, on va parler un peu de tes autres univers maintenant, à commencer par ce magazine Cho, qui a duré pendant 15 ans. Ça fait déjà 10 ans que Cho s'est arrêté. Il y a eu une autre expérience depuis qui s'appelle Super Cho. Est-ce que ça te manque un peu, parfois, cette aventure Cho qui s'est arrêtée quand même après 163 numéros, donc qui a duré un certain temps, qui a été un vivier incroyable. Il y a toute une génération d'auteurs qui ont éclos pendant cette période de Cho que tu as menée, donc avec Jean-Claude Kamano. Est-ce que tu as des regrets depuis la disparition de Cho?
Ah ouais, bien sûr. J'ai des regrets que ça n'existe plus parce que je trouve que c'était un super laboratoire. Et la preuve, hein, beaucoup d'auteurs ont fait leur...
Il y en a beaucoup. Hein,
développé leur style dedans. Thébault, Julien Niel, Lou est né dans Cho. Il y a plein de gens.
Bannister, Boulet aussi.
Boulet, Mathilde Demec, Lisa Mandel, Aude Picot. Enfin, il y a énormément d'auteurs qui sont passés. Même Fab Caro est passé dans Cho. Il a fait, parce que les gens pouvaient arriver puis animer juste une rubrique, faire un rébus, faire un jeu. Enfin, c'était vraiment le journal où on faisait toutes les étapes. On commençait, on faisait une rubrique jeu, puis on finissait par avoir sa série et sa série en album. Donc, c'était une super manière de commencer, enfin de développer un peu son style. Et puis on était, moi j'ai vécu les belles années parce que on a lancé le numéro avec une équipe, on avait un peu tous le même âge, tous les mêmes envies, et donc ça a été une équipe aussi très symbiotique. On allait en festival ensemble, on était la bande à Cho, on nous invitait tous ensemble, on faisait des animations ensemble, c'était assez cool. Donc si tu veux, ça me manque pas parce que j'ai vécu ce rêve de magazine que j'avais. Pour moi, c'était revivre ce que j'avais imaginé.
C'est la rédaction de Spirou, mais dans les années 2000, quoi, c'est ça?
Exactement, ouais, c'était la rédaction de Spirou des années 70, mais 30 ans après, avec une équipe. Parce que moi, quand je suis entré à Spirou, c'était mon rêve. J'imaginais que j'allais vivre ça, mais c'était plus le Spirou.
Tu allais croiser Prunel et Gaston dans les couloirs.
Voilà, exactement. Et c'était plus ce Spirou-là, donc j'étais un peu frustré. Chez Glénat, j'étais avec les auteurs Glénat en festival, que j'aimais beaucoup. Il y avait des gens vraiment, il y a des gens super. Mais on n'était pas du tout dans la même histoire. Et la collection vécue, enfin, j'allais pas faire un magazine avec eux. Donc dès que j'ai pu faire fléchir Jacques Glénat, il n'y avait pas besoin de le pousser beaucoup parce que lui aussi c'est un homme de presse, il a commencé avec ça. Donc l'idée de relancer un magazine, au fond je pense que ça lui faisait aussi très plaisir à lui, et il a été partant très vite. On a monté ce projet et ça a été des années géniales. Et après, déjà à la fin d'autre show, moi j'étais plus tellement là parce que c'était déjà une nouvelle équipe avec des auteurs plus jeunes, avec une...
C'est d'ailleurs Nob un peu qui avait repris le flambeau à la fin.
Nob était rédacteur en chef très longtemps. Après il y a eu Sébastien Arnal, il y a plusieurs rédacteurs en chef encore qui ont succédé à Nob, mais Nob a été très longtemps. Et après, moi, je connaissais moins les nouvelles équipes, j'étais moins présent, j'étais dans d'autres trucs, donc j'étais moins là. Quand Cho s'est arrêté, j'étais, je vais pas dire que j'y étais plus, mais j'étais déjà un petit peu détaché du projet. Donc ça me manque pas dans mon quotidien, je relancerai pas une aventure presse parce que je dirais que j'ai été comblé par rapport à ça, mais je trouve que c'est dommage que ça existe plus parce que ça a permis quand même à beaucoup de gens de démarrer. Et aujourd'hui c'est très dur pour des jeunes auteurs d'arriver, on leur demande tout de suite de faire des albums de 200 pages où ils sont payés 3 francs 6 sous. Et c'est des albums qui sortent comme ça dans un océan de publications, et pour qu'on les remarque, c'est très compliqué. Alors que là, effectivement, les auteurs, ils avaient leur, on allait en festival, les auteurs avaient déjà des fans avant d'avoir publié un album, et c'était hyper cool ça.
Un côté grand frère un peu que tu assumes dans le monde de la bande dessinée dans ces années-là.
Ouais,
toi, finalement,
Titeuf était
pas mal,
un peu la
pas
locomotive du journal, mais assez vite, il y a eu d'autres locomotives, parce que je sais que Captain Biceps, un temps, s'il y avait une couverture Captain Biceps, ça faisait un carton.
C'est toi aussi, Captain Biceps, avec Thébo.
Oui,
avec Thébo.
Thébo, mais c'est plus Thébo que moi. Et après, il y a eu Lou, qui a été aussi une locomotive. Et puis, il y avait vraiment des fans. Il y avait Bao Battle, il y avait... maintenant, je ne me souviens plus de toutes les séries, mais il y a eu énormément d'auteurs qui... Bannister, il y a eu... la série avec le petit dinosaure, tu vois, j'ai un blanc là maintenant sur le nom, mais il y a pas mal de séries qui ont démarré. Mamet, tout à coup on était dans quelque chose de complètement différent. Au début on était vraiment parti sur un truc très court d'école, et heureusement on s'en est un petit peu éloigné, mais il y avait l'idée de raconter un monde contemporain qui pouvait être un peu fantastique, parler du rapport aux parents, du rapport à la société quand on était un enfant, pré-ado. Et aujourd'hui c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui ont la trentaine, pour autre chose, c'est leur Madeleine, quoi. Ils se souviennent de ça.
C'est comme Spirou pour toi, quoi.
Exactement. Et ils se disent, oh, Tcho, c'était génial, je me rappelle de ça. Et donc, ils me posent plein de questions sur Tcho qui sont, mais est-ce que lui, il était vraiment comme ça? Est-ce que Julien Niel était vraiment en retard? Oui, il était vraiment en retard. Est-ce que je peux répondre ici? Enfin, voilà, il y avait toutes sortes de légendes comme ça autour du journal et de la rédaction. Que nous on faisait comme ça de manière très potache, sans vraiment réaliser que ça allait marquer autant de gens et avec des souvenirs aussi longs.
Julien Niel d'ailleurs a essayé de le relancer un peu de show assez récemment. Bon, ça,
oui,
y a
avec
pas vraiment
Super
de suite
show.
Avec Super Show.
Ouais. C'était, à mon avis, c'était pas la bonne formule parce que c'était des histoires à suivre. Je pense que ce qu'il faisait aussi, c'est que Show, c'était un journal qu'on pouvait acheter et lire sans forcément avoir lu celui d'avant et celui d'après. Donc on avait des journaux comme ça qui faisaient des pics parce qu'ils avaient une couve qui attirait, et on avait des lecteurs qui découvraient. Donc il y avait très très peu d'histoires à suivre dans Show. C'était surtout du gag.
Tu crois qu'on pourrait quand même relancer un magazine aujourd'hui avec cette jeunesse ultra connectée qui n'était pas autant connectée au début des années 2000?
Je ne suis plus du tout
aujourd'hui
le
reste...
gars qui est capable de répondre à cette question.
Aujourd'hui,
vois,
il reste Spirou, Mickey
déconnecté.
Encore.
Je pense que Spirou et Mickey, c'est très particulier parce qu'ils sont là.
Pif, qui revient de temps en temps.
Depuis très longtemps, et ils ont une base d'abonnés qui les permet de toute façon de vivre. Donc ils peuvent tenter plein de choses. Mais lancer aujourd'hui un journal comme un laboratoire, je ne sais pas. Je pense qu'en tout cas, au niveau des auteurs, ce serait quelque chose de beau. Au niveau des lecteurs, est-ce qu'on arriverait à faire vivre un journal aujourd'hui? Je ne sais pas, j'aurais tendance à dire oui.
Dans l'atelier BD de Zep.
Alors on parlait des années impaires, c'est les années Titeuf, et puis il y a les années paires qui sont maintenant les années one shot, où tu fais complètement autre chose que l'univers Titeuf, tu fais des bandes dessinées réalistes, beaucoup plus adultes. Comment ça t'est venu ça? C'est une histoire d'homme peut-être la première?
Ouais, en fait ça a commencé un peu avant une histoire d'homme. En fait ça a commencé assez tôt, au tome 4 de Titeuf. J'ai commencé à noter plein d'histoires autour de l'adolescence. Puis j'ai dit, tiens, j'ai plein d'histoires marrantes autour de la puberté, des premiers rapports amoureux, première copine, premier rapport sexuel, qu'est-ce que je fais? Et j'ai commencé à faire ces pages et faire Titeuf qui avait basculé, qui était devenu adolescent, qui était devenu pubère. Puis je me suis dit, c'est bien, mais je pourrais plus revenir en arrière. Et en fait, ce qui m'intéresse, le Titeuf, ce qu'il fait vivre, c'est cette curiosité enfantine. Et puis c'est aussi cette à la fois peur et inquiétude, anxiété, curiosité vis-à-vis de la puberté. Donc si je fais ça, je peux plus revenir en arrière.
Même si tu l'as fait dans un Titeuf, hein.
Je l'ai fait, mais c'était imaginaire. Il a imaginé, il fait tout pour devenir adolescent, mais ça marche jamais vraiment. Il singe les adolescents sans le devenir vraiment. Tandis que là, il l'était vraiment, donc un peu comme Julien l'a fait avec Lou d'ailleurs. Hein. Lui, il a assumé cette croissance de son personnage, mais il l'a fait dès le départ. Donc là, moi, j'avais fait 3 albums, puis c'est au 4e album où je faisais ça. Puis là, je me suis dit, non, j'ai quand même envie de garder l'enfance, et je vais faire un autre album. Et autour de moi, mes copains m'ont dit, mais pourquoi tu fais ça? Titeuf, c'est en train de décoller, il ne faut pas faire autre chose. Je dis, mais c'est pas grave, je fais en même temps. C'est pour ça que moi, j'ai pas du tout ce repère que tu dis année paire, année impaire. J'ai toujours tout fait,
ça,
mélangé.
Ça, c'est un peu maintenant, en fait.
Après, voilà, c'est un peu dans les calendriers, ça sort comme ça. Mais des fois, par exemple, Ce que nous sommes, qui est mon dernier roman graphique, je l'ai fait en même temps que la grande aventure de Titeuf. Le matin, je faisais Ce que nous sommes, l'après-midi, je faisais Titeuf. Donc, pour moi, tout est toujours mélangé. Et j'ai commencé à faire ça, et j'ai trouvé ça vachement cool d'avoir cette liberté de faire un projet annexe. Et je l'ai fait chez Dupuis, parce que je me suis dit, je ne vais pas le faire chez Glénat. Et c'était cool avec Camano, ça. Je lui avais dit, écoute, j'aurais envie de voir ailleurs comment c'est. Puis il m'a dit, ouais, bah, fais-le ailleurs, t'as raison. Tu fais Titeuf chez Glénat, puis si tu veux, va voir ailleurs comment ça marche. Donc je l'ai fait chez Dupuis.
Puis là, cette fois, ils te répondent. Après Titeuf,
ils m'ont répondu. Donc j'ai fait deux albums chez eux. J'ai fait Les Filles électriques, qui était cet album sur l'adolescence, et après j'ai fait L'Enfer des concerts 2 ans après, qui après ont rejoint mes albums Happy chez Delcourt. C'est devenu Happy Girls et Happy Rock.
Et puis après, il y a eu les deux tomes d'Happy Sex.
Voilà, après, j'ai fait Happy Sex chez Delcourt. Donc, c'était encore autre chose. C'était un projet adulte. Et là, pareil, quand j'ai dit ça, tout le monde m'a dit, mais tu peux pas. C'était en 2006, je crois, quand je me suis mis à travailler là-dessus. Et en 2006, Titeuf, c'était un truc de fou. On sortait un album, c'était 2 millions d'exemplaires à la nouveauté. Donc, j'étais l'auteur jeunesse.
Et là, tu te mets à faire des...
dans tous les trucs jeunesse.
Tu te mets à faire des scènes de cul.
Tout à coup, voilà, je dessine un truc pour adultes. Et tout mon entourage m'a dit, faut pas faire ça parce que les gens vont pas comprendre ton public. Qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai dit, mais mon public, il y a aussi des adultes. Puis les enfants, ils vont grandir. Donc quand ils grandiront, ils ont aussi ça. Puis j'ai envie de faire ça. Je venais de passer 2 ans à bosser sur l'adaptation du guide du zizi sexuel en expo pour la Cité des Sciences. Donc à parler de sexualité pour des enfants. Je lui ai dit, tiens, j'aimerais bien aussi raconter ça, mais pour des adultes. De manière plus explicite, pas dans l'imaginaire, qu'est-ce qu'on va devenir, mais c'est quoi notre quotidien de sexualité.
Alors c'est de la sexualité, mais c'est pas du tout du Manara, du Serpieri, ou même du Dany d'ailleurs, c'est hyper drôle,
c'était, moi j'ai l'impression que c'était, la volonté c'était d'être drôle, puis d'être assez large, c'est-à-dire je voulais pas, c'était pas mon rêve de dessiner des jolis pin-up. J'avais envie de dessiner des gens tout nus et de voir leur sexualité, en fait. Nous, au quotidien, des
c'est un peu le ridicule
jeunes,
de la sexualité
vieux.
Du quotidien, quoi.
Ouais, la sexualité, quand ça dérape.
La sexualité
dérape
embarrassante.
Souvent, et voilà, c'est marrant parce que ça dit des choses de nous. Et c'est des choses dont on parle pas forcément, toujours. J'ai l'impression que les femmes sont plus détendues pour en parler que les gars.
Alors après, évidemment, pour la séance de dédicace, les gens me demandent si c'est
voilà,
des anecdotes personnelles.
Toutes sortes de choses. Mais je me rappelle que j'avais écrit une lettre à tous mes amis en disant, voilà, je suis en train de bosser là-dessus.
Ce n'est pas moi.
Si jamais, non, en leur disant, si vous avez des anecdotes marrantes, je suis preneur. Et j'ai un copain qui m'a écrit et 20 copines qui m'ont écrit. Je me suis dit, ouais, elles sont plus détendues pour parler des ratages que les gars. Donc ouais, c'était assez marrant à faire. Et puis là, bah, c'est sorti, c'était un peu bizarre, toi, de faire un album qui était sous blister par l'auteur de Titeuf, mais interdit aux enfants. Et en fait, l'album a très bien marché. Et je me suis dit, ça me donne raison dans cette idée de liberté, de garder, de pouvoir faire des projets qui sont comme ça, déconnectés. J'avais fait entre-temps, aux éditions du Seuil, Découpé en tranches, qui était aussi un truc beaucoup plus autobiographique, qui ressemble à ce que j'ai fait après sur mon blog dans Le Monde.
Là aussi, avec énormément d'autodérision.
Ouais, puis
toujours parler de sujets graves avec
des
humour, finalement. C'est ça ta marque de fabrique.
Ouais, puis des sujets moins enfantins, là, pour le coup, qui étaient plus des problématiques d'adultes. Et voilà, petit à petit, c'est devenu une espèce d'évidence que j'avais cette... Je pouvais pas dire je m'ennuie, tu vois. Si tu t'ennuies, fais autre chose. Tu peux, si tu as envie de faire un autre bouquin, tu fais un autre bouquin.
C'est marrant, c'est exactement ce que, dans un podcast précédent, on disait Lewis Trondheim. Pourquoi tu fais tout ça? Parce que j'ai pas envie de m'ennuyer.
C'est ça. Et je trouve que si on s'ennuie dans ce métier, c'est un peu dommage, parce qu'on a quand même la chance incroyable de faire un métier où on raconte ce qu'on a envie de raconter, qu'on dessine ce qu'on a envie de dessiner, et qu'on a la chance d'avoir des lecteurs qui vont le lire, quoi, et nous faire vivre avec ça. Donc c'est super. Donc, c'est vrai que dans mes premières années de festival, j'ai rencontré des vieux auteurs des générations d'avant qui, eux, faisaient des séries où il n'y avait pas cette liberté-là. Quand une série marchait, ben, il fallait faire les 30 tomes de la série. Mais il y en a qui ont vraiment passé leur vie même, tu vois, Uderzo, tu parles de succès, lui, il était à l'abri de ce genre de questions depuis longtemps, mais par devoir, il a fait toute sa vie des albums, et vraiment jusqu'à la fin de sa vie, il a dessiné des albums d'Astérix, parce que les gens demandaient des albums d'Astérix, alors il était très heureux de les faire. Mais je pense que plein de fois, il aurait aimé peut-être faire un pas de côté, dessiner d'autres choses, mais c'est une génération qui se permettait pas ça, parce que si tu parlais avec lui, il aimait pas du tout qu'on le traite d'artiste. Pour lui, c'était un artisan. Et à un moment, c'est un artisan qui avait trouvé la meilleure recette de gâteau du monde. Et donc, il faisait son gâteau que les gens aimaient. Et il savait que tout le monde attendait ce gâteau. Il n'allait pas dire, bah, écoutez, les mecs, je vais plutôt faire des cornichons cette semaine parce que j'ai envie d'essayer autre chose. Et je me rappelle, j'avais été le voir avec mon album découpé en tranches. Puis il m'avait dit, ah, c'est cool, mais...
C'est mieux Titeuf.
Mais pourquoi tu fais ça? Parce que Titeuf, c'est mieux quand même. Tu vois, Titeuf, ça marche vachement mieux, les gens aiment mieux. Je dis, ouais, mais moi, j'avais envie de faire ça. Et puis, il dit, ouais. Puis, je voyais que c'était à la fois... Il trouvait que c'était un peu prétentieux de dire, bah, tu fais un album pour te faire plaisir. C'est bon, mec, c'est pas, si tu veux te faire plaisir, fais-toi plaisir, mais t'es pas obligé de faire un livre. Donc voilà, c'était une autre génération, quoi. Vraiment, qui avait un autre rapport à ça. Et puis... Après, j'ai publié... j'ai toujours eu une activité assez dense dans mes carnets de croquis où je dessine dehors, je dessine d'après nature. Donc, je dessine des gens, des arbres, des voitures, des maisons. Voilà, et je remplis des petits carnets comme ça, bon, avec des aquarelles ou des dessins au trait. Et puis, on m'a plusieurs fois demandé de les exposer dans des festivals. Et je les avais exposés au festival Bédéphile à Lausanne, la première année, je crois. Et il y avait l'éditeur de Gallimard qui était là et qui m'avait dit « J'aime beaucoup ça, moi j'aimerais faire un livre avec ça. » Mais qu'est-ce que je vais raconter? Parce que c'est des dessins, on passe d'une chapelle de montagne à un baobab, enfin, qu'est-ce qu'on va raconter? Il me dit « C'est juste, c'est de le dessin, tu racontes le dessin, pourquoi tu dessines? À la limite, raconte pourquoi tu dessines. » Et j'ai fait des petits textes pour raconter ça entre les pages, où je faisais un peu l'humoriste. Et il m'a dit « Non, mais c'est pas... Force-toi pas à faire l'humoriste. » Puis dans tous les petits textes, il y en avait peut-être 20 où je faisais un peu le rigolo, puis deux où je racontais plus, effectivement, cette espèce d'état un peu contemplatif du dessinateur. Puis il m'a dit « Ça, c'est bien. Là c'est toi, t'es sincère avec ce dessin-là. » Et donc j'ai fait tous ces petits textes en y croyant à moitié, en faisant quand même un peu le rigolo de temps en temps, en me disant « Mais est-ce que j'ai le droit de faire ça ?» Tu vois, autant de faire Happy Sex, ça me posait pas de problème, mais tout à coup d'être pas drôle, je me disais « Tiens, est-ce que j'ai le droit de gâcher du papier en faisant quelque chose qui fait pas rire les gens ?» Et cet album est sorti et il a eu un chouette écho auprès du public. Alors c'était pas un succès énorme, c'était un album assez confidentiel, mais ce carnet intime, et même dans mon entourage, j'ai des amis à qui j'offrais tous mes albums de Titeuf depuis le début, qui m'ont dit, bah, tu sais, j'ai jamais osé te le dire, mais j'aime pas tellement tes bandes dessinées, mais ça j'ai adoré, c'est un livre de chevet, quoi, je le lis tout le temps. Et donc, ça m'a un peu conforté, je me suis dit, tiens, je peux aussi développer ce truc-là. Et deux ans après, même pas un an après, j'avais écrit une histoire d'homme et j'ai commencé à développer aussi des histoires qui n'étaient pas des comédies.
Comment tu vas chercher tes thématiques? On a l'impression, par exemple, dans Zien, il y a donc cette histoire de la nature qui se rebelle contre l'homme. On est souvent dans des thématiques qui te préoccupent, des thématiques écologiques, ou dans ton dernier album, dans ton dernier roman graphique, là, cette fois, on est plus sur l'homme augmenté. Il y a toujours un rapport de l'homme au naturel. Ce sont des questions qui te préoccupent beaucoup?
Oui, ben, l'humain en général, son devenir, ouais, ça me préoccupe. Il y a de quoi être préoccupé. Après, c'est aussi des choses... Une histoire d'homme, c'était des préoccupations. L'histoire, elle m'est tombée dessus. Je pense que c'était quelque chose lié à mon âge. J'ai fait cette histoire, j'avais 45 ans, je crois.
Alors, c'est des musiciens, on rappelle. Hein. C'est voilà, des rapports entre...
Des musiciens qui ont rêvé de
Il y en a qu'un qui est devenu rockstar et pas les autres.
Voilà, le groupe explose et il y en a un qui est devenu une star et les autres ont eu d'autres vies. Et ils se retrouvent 20 ans après. Et qu'est-ce que c'est d'être devenu un homme? Je pense que c'était une question que je me posais à moi-même à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est à 45 ans de devenir un homme quand on fait un métier qui est le métier qu'on voulait faire quand on était enfant? Parce que souvent, qu'est-ce qui fait de nous un homme? C'est notre travail, nos responsabilités. Non, entre-temps, j'étais devenu aussi père de famille moi-même. Mais... Donc c'est des questions qui m'intéressaient, le rapport au succès, le rapport à... la loyauté, les amis avec qui on a eu des projets artistiques, on voulait tous changer le monde. 20 ans après, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui sont toujours artistes, il y en a qui ont abandonné, il y en a qui ont abandonné avec une amertume énorme, il y en a qui ont abandonné.
T'en crois ça de certains des gens avec qui t'as commencé, qui disent « il a fait Titeuf et voilà quoi, et moi j'y arrive pas ».
Ouais, enfin, je pense pas qu'ils disent « j'y arrive pas », ils avaient pas envie de le faire, mais... Mais dans les auteurs de bande dessinée, ben, bien sûr, on a tous fait notre carrière. Il y en a qui ont abandonné la bande dessinée parce qu'il y a un moment des réalités financières. C'est-à-dire que si on a des gamins, ben, il faut commencer à... On ne peut plus avoir 1000 euros de droits d'auteur par année pour vivre. Donc, il faut trouver autre chose. Puis la bande dessinée, ce n'est pas tellement un métier qu'on peut faire le dimanche, quoi. C'est très engageant, c'est beaucoup d'heures, c'est laborieux. Et puis la musique, moi je joue dans des groupes de musique depuis que j'ai 12-13 ans. Donc beaucoup de groupes dans lesquels j'ai joué, où on pensait qu'on allait être les nouveaux Led Zeppelin, et puis ben non. Et certains qui sont devenus des musiciens qui ont tourné, qui ont joué avec des stars.
Et d'ailleurs, le petit Philippe, il rêvait quoi? D'être une star de la BD ou d'être une star du rock?
Non, moi je rêvais de faire de la bande dessinée. Je pensais même pas que tu pouvais être une star en faisant de la bande dessinée, mais j'espérais pouvoir être un auteur de bande dessinée qui a du public, qui est lu par des gens, quoi. Mais j'admirais des auteurs de bande dessinée qui n'étaient pas forcément des stars, mais moi je les connaissais et ça me semblait être suffisant comme raison pour qu'ils publient des livres. Tu vois, ça me rendait heureux de savoir qu'il y avait le nouvel album. Je sais pas, même des gens qui ont fait un album qui, moi, m'a fait hurler de rire et qui après a disparu. J'adorais le Baron Noir, ça n'a jamais été non plus le plus grand succès de librairie. J'adorais, je sais pas, j'ai plus ce que j'aimais, mais j'aimais même des trucs pas forcément très très connus en bande dessinée. J'aimais Max l'Explorateur quand j'étais petit, tu vois. Barra, ça n'a pas été une star de la BD, mais c'était, je me disais, j'adorerais un jour être aussi connu que Barra qui faisait de la bande dessinée. Donc j'aimais ça. La musique, c'est venu plus tard, c'est venu à l'adolescence. Et puis là, c'était dans des trucs de, on est ado, on fait du rock, ça avait quelque chose de, une manière de s'affranchir aussi de nos parents, de la génération d'avant. C'était un truc qui nous appartenait à nous, peut-être plus que la bande dessinée. Ça me semblait plus générationnel que la bande dessinée.
On peut en parler d'ailleurs de la musique, hein. Il y a beaucoup de guitares dans cet atelier, il y a beaucoup de matériel de dessin évidemment et de dessin, mais il y a aussi la musique est très présente, elle est toujours ultra présente. Bon, tu l'as raconté dans l'Enfer des concerts d'ailleurs, ta passion, c'est vraiment une passion que tu as chevillée au corps, la musique.
Oui, alors dans l'Enfer des concerts, c'est ma passion en tant que spectateur. Je suis allé beaucoup aux concerts, j'y vais un peu moins maintenant, mais à cette époque, j'allais en tout cas 50 fois ou 100 fois par année voir des concerts. Donc j'en ai vu beaucoup et j'avais envie de raconter ça. Puis là, ben, tu as l'étage au-dessous, c'est un studio de musique. Donc on a un studio ici où on enregistre avec ma compagne qui est chanteuse. Moi, j'ai d'autres groupes avec lesquels je joue. J'ai eu l'occasion de jouer aussi. Alors, plus parce que je suis dessinateur, je me suis retrouvé à jouer avec Jean-Jacques Goldman parce que j'avais fait sa pochette de disque avec... Amis,
le dernier album de Goldman, c'est toi qui as fait la pochette, ouais, dernier en date, dernier, il n'y en aura pas d'autres d'ailleurs.
Je pense pas, non, ça fait 22 ans maintenant, donc à mon avis il n'y en aura pas d'autres.
Incroyable comme histoire d'ailleurs, comment ouais, tu t'es retrouvé à faire la pochette.
Ça c'était ses dessins, tu vois, de carnet de croquis en fait. Lui avait vu ça dans un magazine et a aimé ça. Lui, c'est pas un lecteur de bande dessinée, Goldman, et quand on lui a dit, mais c'est le gars qui fait Titeuf. Il ne savait pas ce que c'était Titeuf. Et en 2001, en France, pas savoir ce que c'était Titeuf, c'était une petite performance quand même.
Tu as même fait une pochette d'album de Bob Dylan.
J'ai même fait une... ouais, alors ça, mais pas à la demande de Bob Dylan, c'est un bootleg. Mais j'ai fait beaucoup de pochettes de disques pour toutes sortes de groupes, des connus et des pas connus.
Alors tu as fait Renaud il n'y a pas si longtemps que ça. Renaud, lui, c'est ce que c'est que Titeuf avec la bande dessinée.
Alors Renaud, c'est un grand connaisseur de bande dessinée. D'ailleurs, sa fille est une autrice.
Lola
Séchant, qui est quand même assez magnifique. Et puis, Renaud qui me demande de faire sa pochette, ouais, ça ne se refuse pas. C'était génial.
Bill de Rey, même Henri Dess, on a fait pas mal d'ailleurs pour Henri
Dess. J'ai fait beaucoup, ouais, avec lui, j'ai fait pas mal.
Tu fais plus par contre ces pochettes d'albums, hein, de disques.
De Henri, tu dis?
Non, globalement, des pochettes d'albums.
Si, j'en fais, ouais, ça m'arrive. Là, je suis en train de faire un projet avec Aldebert, donc un projet vraiment jeunesse, spectacle, où je vais dessiner avec lui et faire des chansons. Puis là, on a un projet de musique qui s'appelle The Woohoo, qui est... Qui commence à prendre un petit peu. Voilà, donc en fait, il y a toujours... Moi, j'adore cette possibilité. Je trouve que la musique, c'est quand même... Alors, peut-être que des musiciens vont avoir envie de m'étrangler s'ils entendent ça, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on peut faire quand même un tout petit peu plus à temps partiel que la bande dessinée. Alors, pour être vraiment musicien, hein, moi, j'ai un côté... Je suis un peu un touriste, mais je m'entoure de gens qui n'en sont pas, donc ça va. Mais j'arrive à faire un peu la blague en étant auteur-compositeur et interprète, en faisant ça un petit peu à côté.
Donc tu chantes ?
Alors je suis guitariste, mais ça m'arrive de chanter aussi, ouais, un petit peu.
Et tu te produis sur scène ? On peut te voir sur scène de temps en temps ?
Ouais, alors là, ce nouveau projet, on a fait 5-6 dates un peu laboratoire, justement. On va tourner depuis cet automne, je pense.
Rodi, comment ça s'appelle ?
Ça s'appelle The Woohoo. W-O-O-H-O-O. Hey, baby... Oh baby, talk to me.
voir ça sur YouTube.
Oui, sur Spotify, sur toutes les plateformes.
Il y a eu d'autres projets, on peut te voir dans des clips, c'est assez marrant d'ailleurs sur YouTube,
ouais,
il y a d'autres groupes.
Il y a pas mal, il y a un groupe qui s'appelle Alice in Kernerland, avec lequel je joue depuis 10 ans, où on fait que de la musique studio, puis on fait des clips, donc on est sur YouTube. Avant, j'ai eu des groupes de rock un peu plus punk rock sauvage, on faisait des paroles débiles, on était déguisés sur scène et c'était une espèce de cirque comme ça et c'était très drôle. Il y a eu Zepp & Greg, il y a eu Bluk Bluk. Voilà. Puis avant, j'ai joué encore dans des trucs un peu plus folk quand j'étais adolescent.
Et si ça se trouve, tu vas faire un succès en musique comme tu as fait un succès en BD et là, tu vas devoir faire un choix, ça va pas être facile.
Non, mais ça, enfin, de faire des choix, ça va. On peut. Je pense que maintenant on peut compartimenter un petit peu plus les choses. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que je pense que dans la tête des gens et on l'entend tout le temps, si on a eu du succès dans quelque chose, on peut pas tellement faire autre chose. Je l'avais déjà entendu quand j'ai fait une histoire d'homme où c'était bizarre de faire de la bande dessinée réaliste alors que j'étais un auteur de BD d'humour. Alors que c'est pas très bizarre parce que les pères fondateurs entre guillemets. Uderzo en premier, tu vois, c'était des dessinateurs qui faisaient de l'humour et du réalisme. De
Rive aussi. Il faisait Tanguy la Verdure.
Et on peut pas dire qu'il faisait ça par-dessus la jambe. Enfin, c'était quand même un des plus grands dessinateurs réalistes de son époque. Et il faisait Astérix en même temps. Donc, et De Rive, il a fait Buddy Longway et Akari, qui sont deux séries qui sont impeccables. Donc c'est possible. Et de la même manière, moi j'ai un peu côtoyé le monde de la musique par les festivals, puis j'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'affiches de festivals, de magazines, de backstage, pas mal à Montreux, où j'ai eu la chance d'avoir une relation assez amicale avec Claude Nobs, qui était le fondateur de Montreux et Monsieur Montreux pendant très longtemps, jusqu'à sa mort. Et il y avait toujours chez lui, dans son chalet Picotin, une foule incroyable. Donc il y avait Bowie, on voyait tous ces gens-là. C'était absolument génial d'être là-bas. Et par exemple, Bowie, qui a fait beaucoup de peinture, il n'a jamais été pris au sérieux comme peintre. Parce que dès le départ, on a un a priori qui dit « Oui, mais bon, il faut être honnête, c'est pas terrible par rapport à sa musique. » Et je pense que c'est toujours compliqué d'accepter que quelqu'un puisse être talentueux dans deux domaines artistiques, alors est-ce que on l'accepte peut-être plus dans la chanson et le cinéma où il y a des chanteurs acteurs et on a plus l'habitude.
Est-ce que justement c'est important pour toi qu'il y ait une bonne critique par exemple sur tes romans graphiques ou qu'ils fonctionnent, alors ils fonctionnent pas évidemment comme Titeuf, mais en tout cas qu'ils fonctionnent bien en termes de vente, ou finalement tu le fais parce que tu as envie de le faire et puis c'est tout?
Ah non, mais j'ai toujours envie que ce soit le mieux reçu possible. Pour moi, l'album, il sort à partir du moment où j'ai fait l'album que je voulais faire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que même si je le reprenais et que je travaillais encore 6 mois dessus, il serait pas mieux que ça. Donc je vais le refaire. Ces albums, je les redessine beaucoup, là, contrairement à Titeuf. Je vais redessiner mes pages 2-3 fois pour avoir vraiment le dessin, parce que c'est pas un dessin que je maîtrise comme celui de Titeuf. Ça remet pas en cause ce que j'ai fait, tu vois. Si quelqu'un a pas aimé, il a pas aimé, c'est son droit. Il y a plein de gens qui ont pas aimé Titeuf aussi. C'est pas pour ça que je vais arrêter de faire de la bande dessinée.
Alors, tu as eu le Grand Prix à Angoulême. Est-ce que tu aimerais avoir un jour le prix du meilleur album à Angoulême?
Ça me ferait plaisir, mais ce serait un peu bizarre, je pense. Généralement,
pour un one-shot, hein, par exemple.
Ouais, mais généralement, quand tu as eu le Grand Prix, c'est un peu. C'est pour fini, solde quoi. De tout compte. T'as plus de prix après. Ce qui est assez logique, je trouve, parce que le prix du meilleur album, c'est un prix qui, alors je dis ça, je peux pas prétendre à l'avoir, mais c'est un prix qui a un bel éclairage sur l'album. Et quand t'as été Grand Prix, t'as déjà eu ta ration d'éclairage. Enfin, je trouve que ce serait un peu cruel de la prendre aux autres.
Dans l'atelier BD de Zepp.
On arrive doucement à la fin de cet entretien. On va terminer avec les questions traditionnelles. D'abord, donc il y a un Titeuf qui sort, c'est le 18e album de Titeuf. C'est une série qui va continuer tant que tu auras envie de la faire.
Je pense, ouais.
Aucun problème. Quel est ton prochain projet après ce Titeuf? Ce sera justement un nouveau roman graphique? Tu es déjà en train
Alors,
de travailler dessus?
Non. Ben là, il y a pas mal de temps qui est mis pour la musique. Donc c'est mon projet musical avec The Who qui va m'occuper pas mal. Et puis je prépare un album, un beau livre en fait avec Rue de Sèvres sur les 10 ans de... d'albums chez Rue de Sèvres, avec beaucoup d'inédits, de carnets, justement, qui sera un grand livre d'entretien avec Romain Brett, qui est journaliste au Point, et qui sera un livre très illustré, quoi. Voilà, ça c'est le prochain projet, et pas pour le moment, pas de projet de bande dessinée démarré.
On termine avec tes choix, un livre ou une bande dessinée? Pas facile comme question.
J'ai relu récemment Jack London, Martin Eden, je crois, c'est ça le titre, Martin Eden, qui raconte l'histoire d'un personnage qui est écrivain, qui veut devenir écrivain, mais qui vient d'un milieu, ça se passe au tout début du XXe siècle, donc d'un milieu pas du tout littéraire ni bourgeois, et qui n'est pas pris au sérieux. Et donc personne ne s'intéresse, et il refait, il tente, et c'est un travailleur manuel, et en fait il est un peu méprisé par la classe aristocratique qui le considère comme un manuel, il n'a pas le droit à faire partie de cette élite intellectuelle qui écrit. Et tout à coup, il est juste à la période où il y a des stars qui deviennent des stars en étant issus de la classe populaire. Et il devient un écrivain extrêmement célèbre. C'est un peu l'histoire de Jack London. Hein. Et là, il est complètement détruit parce qu'il s'aperçoit que tous les gens qui l'ont repoussé deviennent ses amis. Et c'est une satire absolument magnifique de l'isolement de quelqu'un par le succès. Et c'est un roman très dur, très très beau, écrit à la Jack London avec tout.
T'as l'impression justement, puisque c'est une thématique forcément qui te touche, on comprend pourquoi, mais ça a changé quelque chose sur le regard des autres, le succès phénoménal de Titeuf, où tu as quand même tenu à garder le même cercle amical, à rester... Rester finalement chez zen par rapport à ça.
J'ai toujours mes amis d'adolescence, donc eux, ils sont toujours mes amis, donc ça n'a pas changé. Après, évidemment, ça change, bien sûr. Ça change le regard que les gens ont sur toi, ça change la manière d'entrer en relation avec les gens. Pas pour tout le monde, mais oui, ça, on a une autre manière de rencontrer les gens. Parfois très chouette, hein. Ça permet des rencontres qui n'auraient pas existé autrement. Et puis parfois, effectivement, on ne sait pas trop si les gens sont en train de te parler à toi ou à l'auteur qu'ils ont vu dans les journaux ou à la télé ou qui a marqué leur enfance. Et ça rend des fois la relation compliquée. Ça permet de se dire bonjour, de se dire quelques mots, mais on a du mal à dépasser cette espèce de relation de façade.
J'imagine que ça fait vieillir un peu quand tu vois des gens qui ont maintenant la quarantaine et qui disent « Ah, moi j'ai grandi avec Titeuf
!» Franchement, ça me fait plaisir et j'aime mieux ma vie aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. Donc, je suis pas. Ça me tombe pas du tout sur le moral qu'on vieillisse.
Autre choix, un film ou une série?
Moi, j'aime bien la série Black Mirror, donc je suis toujours assez friand. Là, il y a une nouvelle saison qui vient de sortir, donc j'aime bien regarder Black Mirror. J'aime bien l'anticipation en général.
C'est marrant parce que tes deux derniers one-shots, tes deux derniers romans graphiques, ils font pas mal, que ce soit The End ou...
Ils pourraient faire un épisode de Black Mirror.
Ou la réalité augmentée dans ton dernier album, c'est un peu ça.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Et enfin, puisqu'on a beaucoup parlé musique aussi, un album ou une chanson vraiment très important pour toi?
Ah bon, l'artiste le plus important pour moi, c'est Bob Dylan. Que je continue à écouter, à aller voir en concert. Et là, je l'ai vu il y a une semaine... Et c'était un concert magnifique. Alors ceux qui n'aiment pas vont me dire « Mais c'est normal, t'es fan, t'aimes tout ce que fait Dylan. » C'est pas vrai, je peux être assez critique et des fois il peut être assez catastrophique en concert. Mais là, c'était vraiment très beau et je trouve que c'est une chance d'avoir un artiste qui vieillit avec nous, en fait. Moi, j'écoute Dylan depuis plus de 40 ans et c'est hyper cool en fait d'avoir un artiste qui vieillit, qui fait vieillir ses chansons. C'est pas les Rolling Stones qui continuent à faire comme s'ils étaient jeunes sur scène et par moments c'est un peu ça devient un peu comique. Dylan il assume son âge, il assume le vieillissement de sa musique et de ses chansons, il continue à expérimenter, à aller un peu partout et puis en plus il fait quelque chose qui horripile plein de gens et que moi je trouve très beau. C'est qu'il interdit les portables pendant son concert, donc on doit laisser son portable dans une pochette qui est scellée, et on peut juste être là et assister à ce moment, qui est un moment qui n'existera plus jamais, et dont il n'y aura pas de traces, et il n'y a que notre mémoire qui est dépositaire de ce moment. Et je l'ai vu une quinzaine de fois en concert, et j'adore cette idée, en fait, que j'en ai qu'un souvenir qui vont gentiment disparaître aussi avec le temps. Et je trouve que ça a quelque chose de beau sur l'idée de l'art.
Tu l'as déjà rencontré, Dylan?
Non. Enfin, je l'ai croisé, il m'a signé un dessin que j'avais fait une fois. Mais je ne tiens pas particulièrement, ça a l'air d'être un personnage assez compliqué. je suis pas très groupie. Enfin, si j'étais devant lui, je lui dirais probablement j'adore ce que vous faites et ça lui casserait les pieds, ou il me dirait merci en n'en ayant rien à foutre. Et donc je suis pas persuadé que ce soit nécessaire.
Mais ça te casse pas les pieds, toi, quand on dit qu'on aime bien Titeuf?
Non, j'aime bien, mais je sais pas. Mais lui, il a l'air d'être comme un autre personnage assez paranoïaque qui fuit tout le monde. Et j'ai eu beau concert à Montreux la semaine dernière, c'était très drôle parce qu'à la fin du concert, il vient, il fait quelques pas devant pour saluer, et là toute la salle se lève pour faire une standing ovation et il recule tout de suite et il fout le camp par les coulisses, en fait. De voir juste les gens se lever, et ça a l'air de le terrifier.
Zep, c'est 18 Titeuf chez Glénat, 7 Captain Biceps, 7 Chrono Kid, une trentaine d'albums one shot, un film, une série animée. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans ton splendide atelier, Zep. Dans l'atelier BD, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit tchô.
Tchô, à bientôt.
Comment on dit tchô? Comment on le dit bien?
Tchô.
Tchô.
Après, tu peux le faire traîner si t'es en Suisse. Tchô.
Et surtout, n'oubliez pas, lisez des BD.